sur la fin de vie. Bienvenue dans Europe 1 Soir, 2 heures d'infos, de décryptage et de débat. Il est 19h sur Europe 1.
Europe 1 Soir, 19h-21h, Pierre de Villeneuve.
Au sommaire, fin de partie, Sébastien Lecornu dévoile ses cartes, c'est un 49-3. Le Premier ministre va engager la responsabilité du gouvernement avec regret, dit-il, et amertume. Décryptage dès le début de ce journal et nous consacrerons une large partie de cette Europe 1 Soir à cette décision du Premier ministre pour faire passer un budget coûte que coûte. L'autre actualité, c'est la loi dite sur la fin de vie. Le texte revient demain au Sénat. Déjà hier, plusieurs milliers de personnes ont manifesté contre l'euthanasie et le suicide assisté. Reportage à suivre chez les petites sœurs des pauvres et à 19h15, invité d'Europe 1 Soir, Monseigneur Mathieu Rouget, évêque de Nanterre, auteur d'une tribune hier dans le JDD, il fustige le dévoiement de l'espérance et de la fraternité. À suivre aussi le procès des assistants du Front National, témoignage aujourd'hui de Nicolas Bay qui reconnaît à demi-mot 39 morts dans une catastrophe ferroviaire en Espagne, 3 jours de deuil national, la violence du choc a fait s'éjecter plusieurs wagons des rails. La tendance météo, bonsoir Marlène Duret.
Bonsoir Pierre, le temps va s'améliorer sur le pourtour méditerranéen demain alors que de nouvelles pluies arriveront en Bretagne et puis une alerte orange est toujours en cours dans 5 départements pour des pluies ou des crues ou les deux, les Pyrénées-Orientales, l'Aude, l'Hérault, la Haute-Corse et la Corse du Sud.
A tout à l'heure pour la météo complète, 20h10, Alexandre Devecchio, mon confrère du Figaro signe, nous vivions côte à côte chez Fayard, référence à la célèbre phrase de feu l'ancien ministre de l'Intérieur Gérard Collomb qui complétait « Et maintenant nous vivons face à face, la banlieue, la Seine-Saint-Denis, le clivage des populations, le racisme anti-blanc, tout cela existait déjà il y a 40 ans, nous dit-il, et il nous explique tout à l'heure. Fin du suspense, ou plutôt du secret de Polichinelle. La décision est tombée après un conseil des ministres exceptionnel cet après-midi à l'Élysée. Sébastien Lecornu annonce finalement utiliser l'article 49.3 pour faire adopter son budget à l'Assemblée nationale. Partons tout de suite à l'Élysée où le Premier ministre a justifié cette décision dans une longue conférence de presse. Bonsoir Alexis de la Fontaine.
Bonsoir Pierre, bonsoir à tous.
Vous êtes sur place pour Europe 1, Sébastien Lecornu l'a admis, c'est un échec pour lui qui s'était engagé à ne pas utiliser cette méthode.
Oui, Sébastien Lecornu reconnaît un demi-échec et un demi-succès et annonce qu'il utilisera l'article 49.3.
Nous avons décidé, je dois le dire à titre personnel, avec une certaine forme de regret et d'un peu d'amertume, mais d'engager la responsabilité du gouvernement, ce que je ferai demain sur la partie recette du projet de loi de finances.
Sébastien Lecornu se justifie. Selon lui, les débats étaient bloqués à l'Assemblée nationale à cause, je cite, du sabotage mené par la France insoumise et le Rassemblement national. Un proche d'Emmanuel Macron nuance. En réalité, le Parti socialiste refusait de voter le budget, mais acceptait de ne pas censurer le gouvernement. La censure, c'est la prochaine étape pour Sébastien Lecornu. Le vote aura lieu jeudi au Parlement et le Premier ministre appelle les députés à la raison.
Je prends sur moi ce texte de compromis, puisque plus personne ne veut complètement l'endosser. Je le donne au Parlement et j'engage la responsabilité du gouvernement pour ce faire, parce qu'une fois de plus, on est la France. Et donc je pense qu'on va arrêter de se donner en spectacle devant le monde entier pendant de nombreuses semaines et nous permettre de donner un budget à la nation.
Emmanuel Macron a conclu ce Conseil des ministres en saluant, je cite, « l'engagement du gouvernement qui a réussi à trouver un chemin de crête pour doter la France d'un budget ».
Merci Alexis de la Fontaine du service politique d'Europe 1 à l'Élysée pour Europe 1 Réaction Politique. Sébastien Lecornu trahit sa promesse envers les Français, réagit le Rassemblement National. La France Insoumise va déposer une motion de censure en réponse au 49-3, contrairement au PS. Et le chef des députés LR, Laurent Wauquiez, dit vouloir quant à lui regarder le budget dans le détail avant de se prononcer. Pendant ce temps, dans les dossiers du domaine réservé du président de la République, Emmanuel Macron a hier décidé de couper court, en tout cas de tenter de couper court, aux nouvelles menaces de Donald Trump en essayant d'activer l'instrument anti-coercition de l'Union européenne. Bonsoir Arthur Delaborde.
Bonsoir Pierre, bonsoir à tous.
L'assaut sur le Groenland constitue la plus grande menace et pour ce faire, le président s'est saisi de la question.
Effectivement, Emmanuel Macron plaide donc pour la réponse la plus dure, surnommée le bazooka européen, une arme économique très lourde, limiter les importations américaines, bloquer des investissements, fermer des marchés publics, autrement dit, ouvrir une guerre commerciale avec Washington. Le Le président français veut montrer qu'il ne cède pas, mais il se heurte pour le moment aux réticences, notamment de l'Allemagne et de l'Italie. En face, Donald Trump, lui, assume le bras de fer. Les États-Unis l'ont dit clairement, répondre serait très mal avisé. Pour eux, le Groenland n'est pas un sujet diplomatique, c'est qu'un actif stratégique, un enjeu de sécurité. Conséquence immédiate, les bourses européennes chutent, les marchés sentent l'escalade et pendant que Paris parle sanctions, le Danemark et le Groenland proposent autre chose ce soir, une mission de surveillance de l'OTAN sur place, une réponse collective, militaire, encadrée. Le contraste est net, Emmanuel Macron veut incarner la fermeté, mais il apparaît isolé, sans réel soutien de la part de ses partenaires européens.
Merci Arthur Delaborde du service politique d'Europe 1. C'est demain que Marine Le Pen sera auditionnée dans le cadre du procès en appel des assistants parlementaires du Front National. En attendant, c'est Nicolas Bay, souvenez-vous, l'ancien secrétaire général du parti qui était appelé à la barre aujourd'hui, lui aussi mis en cause pour avoir prétendument embauché un assistant parlementaire payé par le Parlement européen, mais qui travaillait en réalité pour le parti. Bonsoir Alexandre Chauveau.
Bonsoir Pierre, bonsoir à tous.
Vous suivez ce procès pour Europe 1 et tout en réfutant l'intentionnalité de commettre un délit, Nicolas Bay a cet après-midi reconnu une partie des faits reprochés.
Oui, face aux questions de la présidente du tribunal sur le rôle de Timothée Oussin, son assistant parlementaire de l'époque, Nicolas Bay plaide d'abord la zone grise. Quand il me préparait des notes pour une émission de télévision par exemple, il le faisait à la fois pour le député européen, mais aussi pour le représentant du Front National que j'étais, avance Nicolas Bay, qui insiste sur le contexte de l'époque, en 2014, où ni l'affaire Fillon, ni celle des assistants parlementaires du Modem n'avaient encore marqué l'actualité. L'eurodéputé dit néanmoins reconnaître a posteriori les faits mis en cause par l'accusation. Aujourd'hui, je comprends ce que l'on me reproche, dit-il. J'ai sans doute eu tort de ne pas être plus vigilant, mais au moment des faits, à aucun moment je n'avais conscience de commettre un délit, ajoute-t-il. Une inflexion claire dans la stratégie de défense que pourrait également adopter Marine Le Pen demain lors de son audition. Quitte à assumer une condamnation, la principale prévenue espère démontrer que le risque de récidive est nul pour tenter de faire tomber l'exécution provisoire associée à la peine d'inéligibilité prononcée en première instance. Une peine qui la prive à ce stade d'une candidature à la présidentielle.
Merci Alexandre. Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1. Il est 19h06, c'est la pire catastrophe ferroviaire de ces dernières années. En Espagne, une collision entre deux trains a fait 40 morts, nouveau bilan à l'instant, et plus de 120 blessés hier soir. Un bilan toujours provisoire. Le gouvernement espagnol décrète 3 jours de deuil dans le pays. Bonsoir Alexis Bourdon.
Bonsoir Pierre, bonsoir à tous.
La question c'est comment est-ce que ces deux trains ont-ils pu se percuter ?
Eh bien pour des raisons encore inconnues, l'arrière du train de la compagnie Irio en direction de Madrid déraille et glisse sur l'autre voie parallèle à la sienne. 20 secondes plus tard, un train de la Renfe qui arrive en sens inverse percute de plein fouet les wagons qui se trouvent sur son chemin. Les enquêteurs étudient plusieurs pistes, défauts de voie, problèmes techniques ou encore erreurs humaines. Le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez est lui décidé à faire toute la lumière dans cette affaire.
Nous allons découvrir la vérité, nous allons trouver la réponse et lorsque nous connaîtrons l'origine de cette tragédie, nous la porterons à la connaissance du public par le biais des médias en toute transparence et clarté.
Au total, près de 500 personnes voyageaient à bord des deux trains. Ils circulaient sur une ligne droite entièrement rénovée en mai 2025 et en dessous de la limite de vitesse autorisée. Le train qui a déraillé n'avait que 4 ans et avait été révisé jeudi dernier. La Guardia Civile a invité les familles sans nouvelles de leurs proches à signaler leur disparition, mais aussi à fournir des échantillons ADN pour aider à identifier les corps.
Merci de ces précisions, Alexis Bourdon. C'est donc demain que la proposition de loi sur la fin de vie revient au Sénat. Les petites sœurs des pauvres sont très inquiète. Cette congrégation créée il y a près de 200 ans en Bretagne a pour mission principale d'accompagner les personnes âgées jusqu'à leur mort naturelle. 1600 sœurs sur 5 continents dans 31 pays s'occupent de plus de 9000 personnes âgées au quotidien. Cyril de la Morinerie s'est rendu à Versailles dans l'un des EHPAD gérés par les petites sœurs des pauvres où chaque résident est accompagné avec douceur et avec un grand respect jusqu'à la fin de sa vie. Reportage.
Madame Limbourg ?
Oui.
Nous voilà.
Germaine, 94 ans, nous accueille le sourire aux lèvres dans sa chambre ouverte sur un jardin. Arrivée ici il y a 2 ans et demi pour y vivre les derniers moments de sa vie, elle ne comprend pas que l'on puisse peut-être bientôt légaliser en France l'aide à mourir.
La fin de vie ici, c'est une vie qui continue. On peut aller jusqu'à la fin de vie quand on est bien accompagné.
Pour vous, la vie est sacrée ?
Bien sûr.
Dans cet établissement tenu par les petites sœurs des pauvres, l'équipe médicale veille jour et nuit sur les personnes âgées. Madeleine, aide-soignante, a vu de nombreux résidents reprendre goût à la vie.
Des fois, quand ça arrive que
Le résident dit, je veux partir, je suis fatigué. Mais après, quand ils sont bien accompagnés, ils changent d'avis. Non, je ne pourrai jamais donner la mort. Jamais de la vie.
Et cette proposition de loi sur la fin de vie fait naître de vives inquiétudes à Sœur Marie-Christine, mère supérieure de la Congrégation des Petites Sœurs des Pauvres à Versailles.
Elle nous inquiète parce qu'elle est assez coercitive. C'est difficile de trouver un sens pour accompagner la vie, pour que ça se termine comme ça, de façon aussi brutale. En tout cas, il faut qu'on fasse tout ce que nous pouvons pour que nous gardons notre... c'est une clause de conscience, tout simplement.
La Congrégation des Petites Sœurs des Pauvres entend continuer sa mission, accompagner les personnes âgées jusqu'à leur mort naturelle dans le respect et la dignité.
Reportage de Cyril de la Morinerie dans quelques minutes sur Europe 1, Monseigneur Mathieu Rouget, évêque de Nanterre, sur ce sujet. Et puis la mort de Valentino, le célèbre couturier aux robes rouges carmin, est mort à l'âge de 93 ans. Il habilla durant sa carrière Jackie Kennedy, Barbara Streisand, Sophia Loren, le tout Hollywood et quelques têtes couronnées. La Bourse, Claire Lemaître de Boursier.com. Bonsoir Claire.
Bonsoir Pierre.
Avec une très très mauvaise journée en bourse.
Le CAC 40 qui flanche sous les menaces de Donald Trump. Il chute de 1,8% après cette nouvelle offensive sur les droits de douane. Quasiment tout le monde est dans le rouge à Paris et d'abord les entreprises qui exportent. Dans le secteur du luxe, Kering et LVMH chutent de plus de 4%. On a Airbus qui perd plus de 3%. C'est compliqué aussi pour les spiritueux avec Pernod Ricard en repli de 2%. Et dans ce contexte très tendu, l'or a encore battu un record à près de 4 700 $ l'once. En Europe, c'est du rouge, Francfort perd 1,3%, moins 0,4% pour Londres, moins 1,8% à Paris pour le CAC 40, 8 112 points.
Merci Claire Lemaître de Boursier.com.
La météo avec Avenir Rénovation, votre partenaire confiance pour tous vos travaux. Avenir-rénovation.fr.
Et les pluies s'atténuent dans le sud, Marlène.
Effectivement, il y a même le département de l'Aude qui va sortir de l'alerte orange pluie inondation à 22h ce soir au lieu de minuit. Il faudra attendre 6h en revanche, 6h demain matin pour les Pyrénées-Orientales et les deux départements Corse. Et puis notez que l'Hérault, l'Aude et la Haute-Corse sont aussi en alerte orange pour les crues. Alors demain matin, prévoyez encore des pluies dans le Languedoc-Roussillon. Elles vont remonter jusqu'au sud du Limousin, en passant par la région toulousaine, le Tarn, la région de Montauban, Cahors. Il pleuvra aussi encore sur la partie est de la Corse. Et puis la neige apparaîtra d'ailleurs des 1200 mètres dans les Pyrénées, 1600 en Corse, avec un risque d'avalanche de niveau 4 sur 5. Et puis l'après-midi, les précipitations se limiteront simplement au sud du Roussillon et au sud-est de la Corse. Donc c'est mieux. Et alors que le temps va s'améliorer près de la Méditerranée, une nouvelle perturbation apportera de bonnes pluies, de bonnes rafales de vent en Bretagne encore. Alors d'abord dans le Finistère et puis ensuite ça va gagner progressivement une partie de l'Ille-et-Vilaine et de la Loire-Atlantique. Un bon arrosage pour des cours d'eau qui n'en ont pas franchement besoin puisqu'il a beaucoup plu quand même depuis le début du mois. Et les températures, alors elles ne bougent pas trop, souvent stationnaires, 3 à 6 degrés sur le quart nord-est jusqu'au nord de Rhône-Alpes avec 3 à Strasbourg, 6 à Lyon. Ailleurs prévoyez généralement 8 à 12 degrés avec 8 à Lille, 10 à Paris, 12 à Bordeaux et un peu plus dans le Pays Basque et autour de la Grande Bleue avec 14 à 17 degrés, 17 pour Ajaccio.
Merci Marlène Duret. Dans un instant, l'évêque de Nanterre, invité d'Europe 1, Monseigneur Mathieu Rouget, fustige le dévoiement de l'espérance et de la fraternité. Le texte sur la fin de vie revient dès demain au Sénat. A tout de suite sur Europe 1.
Et maintenant, parlons énergie et décarbonation des territoires avec Antargaz.
Bonjour Christophe Denis, vous dirigez la crêperie Cola à Château-Giron, près de Rennes. Vous êtes client Antargaz qui propose du propane et du biopropane, un gaz liquide renouvelable. Quel usage en faites-vous ?
Alors ce gaz sert principalement à la cuisson des crêpes, des galettes sur nos manèges. Ce sont des plaques à plat. Le gaz est en dessous et réchauffe notre pâte et va la cuire. Et pour toute notre gamme de produits bretons, c'est cuit donc dans des fours classiques de pâtisserie.
Et alors quels sont les avantages de cette énergie ?
C'est le coût, bien évidemment, hein, qui est bien moins cher que le gaz de ville. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, ça a été la praticité. Antargaz s'est occupé de nous mettre des cuves à disposition avec une gestion de commande automatique. Et la troisième chose, c'est la proximité. Ils sont à 10 km de chez nous, ils sont disponibles. Et cette proximité est très importante pour nous parce que l'ADN de la société, c'est aussi des matières premières locales. Le lait, les œufs, la farine, tout vient de la région rennaise.
Merci et rendez-vous lundi prochain pour parler énergie des territoires avec Antargaz. L'énergie est notre avenir. Économisons-la.
Dans la vie, vous pouvez choisir le changement. Tester cette nouvelle coupe de cheveux un peu folle. Rejoindre vos amis au café juste après et attendre qu'ils complimentent. Attendre encore. Ou vous pouvez choisir une Volkswagen parce que là, vous ne passerez pas inaperçu. Volkswagen, enfin une décision facile à prendre. En ce moment, le nouveau T-Roc est à partir de 229 € par mois.
Nouveau Tirok 9 LLD 37 mois et 30 000 km. Premier loyer de 4 000 euros, puis 36 loyers de 229 euros si acceptation par Volkswagen Bank. Valable sur une sélection de véhicules du 1er au 31 janvier. Conditions sur Volkswagen.fr. Pensez à covoiturer.
Europe 1, le journal permanent.
À 19h14 sur Europe 1, avec regret et amertume, mais un 49-3 quand même, le Premier ministre confirme qu'il engagera la responsabilité du gouvernement. Seule façon de tenir sa promesse d'adopter un budget. Les LR demandent à voir la copie. Le RN déclare qu'il trahit sa promesse. Les socialistes, a priori, ne censureront pas. Notez que le député PS Jérôme Guedj sera demain matin à 8h10 l'invité de Sonia Mabrouk dans la grande interview Europe 1 CNews. Notez aussi que la ministre des Comptes publics, Amélie de Montchalin, a expliqué que ce budget 2026 va mettre fin à une exemption permettant d'échapper à l'impôt en rangeant des biens personnels parmi les actifs d'une entreprise familiale, notamment grâce au pacte Dutreil. 3 jours de deuil national décrétés en Espagne. L'unité d'urgence de l'armée déployée pour venir en aide aux secours. Un hôpital de campagne dressé non loin de l'accident. 40 morts, dernier bilan du terrible accident entre 2 trains. Un conseil de défense sur la situation internationale, notamment au Groenland. Le chef de l'État souhaite activer l'instrument anti-coercition de l'Union européenne. Discussions qui se poursuivront dans la semaine au Forum économique de Davos, en Suisse, où Donald Trump est attendu. Et puis la mort de Valentino, le célèbre couturier aux robes rouges carmin, est mort à l'âge de 93 ans. Il habilla le tout Hollywood et certaines têtes couronnées. Restez avec nous dans un instant, notre invité, l'évêque de Nanterre, Monseigneur Mathieu Rouget, alors que le texte sur la fin de vie revient dès demain au Sénat.
19h-21h, Europe 1 Soir.
Renault. Découvrez la nouvelle génération Renault. Découvrez Renault 5 E-Tech électrique fabriqué en France dès 160 euros par mois avec 5 740 euros de prime gouvernementale coup de pouce. Pendant les portes ouvertes du 15 au 19 janvier, 2 mois de loyer offert.
R5 Evolution 120 chevaux hors option. LLD 37 mois, 30 000 km. Premier loyer 2700 euros. Prix maximum, certes énergie déduite, si accordiac. Troisième et quatrième loyer offert. Offre à particulier du 15 au 19 janvier. Conditions Renault.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo. Renault.
Lorsque vous voyagez avec Cathay Pacific, nous ne perdons jamais de vue la qualité de votre expérience. Vous n'aurez donc pas de compromis à faire lorsque vous profitez de nos offres. Bénéficiez de tarifs réduits sur nos destinations Asie et Australie. Les offres Cathay Pacific, allez à l'essentiel.
Professionnel, vous avez besoin d'un utilitaire pratique et abordable ? Découvrez Citroën Jumpy à seulement 189 euros hors taxes par mois. Robuste, modulable et économique, il s'adapte à toutes vos missions au quotidien. Il est disponible immédiatement en stock limité et bénéficie de jusqu'à 8 ans de garantie offerte. Rendez-vous vite dans votre point de vente Citroën.
Citroën. Crédit bail 60 mois, 100 000 km, premier loyer de 7 200 euros hors taxes, offre aux professionnels jusqu'au 31 janvier, si acceptation crédit par, détails sur citroën.fr.
Europe 1 Soir,
19h-21h, Pierre de Villeneau.
Et pour m'accompagner jusqu'à 20h, Victor Hérault, bonsoir.
Bonsoir, mon
journaliste politique à Valeurs Actuelles, bonsoir. Joseph Massescaron, merci d'être avec nous aussi. Et bonsoir, Monseigneur Mathieu Rouget.
Bonsoir et bonsoir à tous vos auditeurs.
Merci d'être avec nous, évêque de Nanterre. Vous avez écrit une tribune poignante dans le journal du dimanche, appelant j'allais dire au renoncement, mais en tout cas, on ne sait pas s'il va y avoir un renoncement, mais en tout cas, à réfléchir sur ce texte fondamental sur la fin de vie. Avant que nous abordions le sujet, je vous propose d'écouter Emmanuel Hirsch, professeur émérite d'éthique médicale et membre de l'Académie de médecine, qui était sur Europe 1 ce matin.
Aujourd'hui, ce qui va se présenter dans le débat au Sénat, c'est pour ou contre l'euthanasie. Quand on dit il y a un encadrement, effectivement, les sénateurs ont voulu mettre un peu plus de prudence. Mais quand on sait que toutes les prudences qui avaient été évoquées, y compris à l'Assemblée nationale, ont été révoquées, c'est-à-dire tous les amendements qui allaient dans le sens d'un arrangement qui permette vraiment de contrôler les choses, avec par exemple l'approche spécifique des maladies psychiatriques, avec le délit d'entrave. Aujourd'hui, si une personne fait une tentative de suicide et puis qu'une personne, un médecin ou un soignant, l'incite à plutôt aller dans le sens de la vie, il peut être mis en cause. Je vis auprès de personnes en situation de vulnérabilité et qui attendent de notre société une réponse. Et depuis des années, plus on évolue, plus je comprends que la réponse, c'est certainement pas l'euthanasie, c'est-à-dire vous n'avez plus votre place parmi nous.
Quand on entend Emmanuel Hirsch, Mathieu Rouget, on a l'impression que ce texte, il est voulu, en tout cas tel qu'il est conçu, avec effectivement ce délit d'entrave, etc. On a l'impression qu'on a envie de le faire passer au forceps.
Alors, en tout cas, c'est très impressionnant de voir que des personnalités aussi éminente, expérimentée, proche du monde de la vulnérabilité, comme Emmanuel Hirsch, et puis on pourrait en citer beaucoup d'autres,
bien sûr.
Sont très très vigoureusement opposés à cette proposition de loi telle qu'elle est sortie de l'Assemblée nationale et telle qu'elle est sortie aussi peu modifiée, pas assez retravaillée par la Commission des affaires sociales au Sénat. Et donc je pense qu'au seuil de ce débat, c'est très important que soient vraiment pris au sérieux les avertissements éthiques de personnalités comme Emmanuel Hirsch et mes réserves d'évêques avec tous mes confrères. On a signé une grande tribune qui est parue la semaine dernière dans La Croix. Ce ne sont pas d'abord des réserves confessionnelles réservées aux catholiques et aux croyants, ce sont des réserves humaines, de sagesse humaine, éthiques, que nous partageons avec beaucoup d'autres, avec aussi Jean Leonetti, qui est l'auteur de la loi qui porte son nom et qui n'est pas croyant. Et ensemble, nous voulons défendre le principe d'humanité et le principe de fraternité. Comme je le disais dans le Jean-Luc Desmanches hier, il n'est pas légitime de se réclamer de la fraternité pour ce texte. La fraternité, ce n'est pas donner la mort, c'est accompagner la vie.
Mais vous avez été évêque au Parlement, donc vous avez connu, vous avez été aumônier, pardon, des parlementaires. Vous connaissez parfaitement le fonctionnement du Parlement, comment ça se passe, comment un texte passe d'une chambre à l'autre et qu'après il revient à l'Assemblée nationale. Vous voyez bien que même si les sénateurs l'examinent, après ça revient à l'Assemblée nationale, j'allais dire presque avec le même dogme, avec la même intention. Est-ce que vous croyez à quel point les sénateurs pourront, j'allais dire, freiner cette volonté d'aller jusqu'au bout?
Mieux les sénateurs feront leur travail cette semaine, plus on peut espérer qu'en deuxième lecture à l'Assemblée nationale, il y ait quand même une montée en qualité. Et il s'agit de vivre pleinement le processus démocratique. Vous savez, moi je me rappelle très bien le processus pour la première loi Leonetti. Je me rappelle de députés qui, au départ, dans la commission spéciale, étaient très opposé sur la marche à suivre, et finalement le rapport Leonetti avait été adopté à l'unanimité de Christine Boutin à Patrick Braouzec, qui était à l'époque le député-maire communiste de Saint-Denis. Et donc je pense que si on fait bien le travail, il peut se passer des choses. D'autant plus que nous savons bien que nous sommes une période de fragilité gouvernementale. Nous en sommes, je crois, au 8e ministre de la Santé depuis 3 ans, sans compter les ministres délégués. Donc il y a eu au moins 3 ministres différents déjà sur ce texte. D'ailleurs, je suis étonné de voir que la ministre de la Santé, cette semaine, aura sans doute l'esprit occupé surtout par sa campagne électorale, puisque elle est entre 2 tours d'une législative partielle dans le Loiret. Et donc, voilà, les choses peuvent bouger. Et moi, vraiment, j'espère que les sénateurs, encore plus en commission, pourront, sur un certain nombre de points, faire vraiment évoluer ce texte.
Joseph Massescaron.
Est-ce que vous pensez quand même que on a l'impression qu'il y a quand même une prise de conscience qui s'est faite, qui s'opère progressivement par rapport à lorsque le texte a été déposé pour la première fois, lorsqu'on a eu connaissance?
Oui, je suis heureux que vous disiez cela. Je constate
Il est plus optimiste que moi.
Je constate qu'il y a un travail de fond qui se fait. Je pense par exemple à plusieurs notes excellentes publiées par la Fondation pour l'innovation politique, la Fondapol. L'une qui d'ailleurs remet un peu en cause l'affirmation selon laquelle il y aurait une demande absolument unanime de la société pour aller vers l'euthanasie, et puis d'autres sur le handicap et l'euthanasie, le monde psychiatrique et l'euthanasie, la gériatrie et l'euthanasie. Et chaque fois se construit un peu un même regard en montrant comment une sorte d'idéologie validiste, c'est-à-dire qui ne ferait vraiment place dans la société qu'aux personnes valides, eh bien est sous-jacente à ce texte. Et puis tous aussi évoquent, et ça participe, je pense, de la prise de conscience que vous évoquez, les dérives, notamment en Belgique, aux Pays-Bas, et maintenant au Canada et au Québec, où en quelques mois, 10% des morts sont des morts provoquées.
C'est-à-dire qu'au début, il faut une cause gravissime, et puis finalement, en Belgique, on s'aperçoit que dès lors qu'on a mis le pied dans l'entrebâillement de la porte, toute demande est passée au crible, en tout cas examinée, et parfois, effectivement, on se demande
déjà,
si ça se
justifie. Il y a une manière d'écrire la loi, et de fait, au Sénat, il y a eu des restrictions en commission par rapport à ce qui avait été voté à l'Assemblée, mais c'est vrai que des notions comme le pronostic vital à court et moyen terme sont des notions extrêmement floues. Tous les auditeurs savent bien que quand on accompagne une personne en fin de vie, on peut entendre le médecin nous dire « il y en a pour quelques jours, et puis ça va durer un peu plus longtemps ». Donc on est dans des réalités extrêmement mouvantes. C'est un sujet extrêmement sensible, sur lequel moi je ne souhaite pas avoir de formule à l'emporte-pièce. Il y a
c'est pas ce que je vous demande,
mais non, mais j'entends bien, mais toi, je suis heureux de redire aux auditeurs, vous voyez, on n'est pas là pour rien n'est simple dans l'accompagnement de la fragilité, mais il y a un impératif de fraternité pour que nous soyons vraiment dans une société
de fraternité et d'espérance, comme vous le dites dans le JDD. Ce dont on parle peu, ce sont aussi les regrets. C'est-à-dire qu'il y a aussi des personnes qui ont accompagné en disant « bah tiens, il y a ce système dans certains pays d'euthanasie, appelons les choses, appelons un chat », et qui après disent ah « bah finalement, qui regrettent énormément d'être allés jusqu'à ce stade,
mais je,
qui est évidemment irrémédiable ».
Vous avez évoqué l'époque où ma mission était notamment d'être, comme curé de Sainte-Clotilde, disponible pour les parlementaires, et je me rappelle un sénateur, médecin, à l'époque centriste, à l'époque président de la commission des affaires sociales, qui était un homme plutôt libéral dans son approche éthique, qui un jour avait dit à tout un groupe que j'avais réuni, dans ma vie de médecin, il m'est arrivé une fois de forcer délibérément sur les doses, et voilà pourquoi je ne le referai jamais. Et j'avais été très marqué par ce témoignage.
J'espère que c'est pas le secret de la confession.
Non.
Victor Hérault.
Il y a le secret des sources,
surtout. Soyez rassurés.
Est-ce que vous considérez que l'accélération de la vie politique aujourd'hui empêche aux parlementaires, puisque vous avez exercé auprès d'eux, de prendre le recul, de regarder le temps long, voire même de traiter correctement ce sujet qui peut-être est un peu passé sous d'autres sujets? Je pense au budget, je pense à l'actualité internationale, je pense à la crise politique et tout un tas d'autres sujets. Est-ce que vous considérez qu'aujourd'hui les parlementaires peuvent trancher sur un sujet aussi complexe que celui-là?
Alors il me semble quand même que le débat prend son temps, puisqu'il a démarré il y a quand même pas mal de mois. Et puis le rythme parlementaire se poursuit et une prise de conscience de la société, José Mascaron le disait à l'instant. En revanche, je pense que la vraie difficulté pour aujourd'hui, c'est l'instabilité gouvernementale, alors, qui est liée à la situation politique inédite que nous connaissons en France aujourd'hui, mais aussi parfois par des changements de ministres presque arbitraires. Alors, il y a aussi parfois ceux qui ont pris position contre l'euthanasie, je pense à M. Braun, qui s'est encore réexprimé sur le sujet récemment, urgentiste, et qui a été brièvement ministre de la Santé. Mais il y a une telle instabilité que même pour le dialogue des différentes forces de la société, parmi lesquelles se trouvent les églises, eh bien, les interlocuteurs changent tellement vite qu'on n'a même pas le temps de prendre rendez-vous, qu'il faut déjà solliciter un rendez-vous avec son successeur. Donc là, il y a quelque chose qui est compliqué. Et Jean Leonetti, qui est d'une détermination vraiment sans restriction sur ce sujet, a exprimé assez fortement il y a quelques jours le fait que si on n'arrivait pas à s'occuper de la vie des Français aujourd'hui, ce serait quand même le comble qu'on s'occupe de manière permissive de leur mort.
L'évêque de Nanterre, Mathieu Rouget, l'invité d'Europe 1 Soir. Vous restez avec nous dans un instant. On revient justement pour parler de ce sujet inhumainement sensible. A tout de suite sur Europe 1.
Bonjour, c'est Marie-Estelle Dupont sur Europe 1.
Et si on en parlait ?
Par-delà les déclarations d'amour entre les Français et les agriculteurs, la réalité est brutale. Demain, avec Romain Desarbres, je reçois Nicolas Chabanne, fondateur de la marque C'est qui le patron, pour une juste rémunération des producteurs.
Et si on en parlait ?
Émission spéciale consacrée au rapport contrarié entre les Français et les agriculteurs, demain, de 15h à 16h, sur Europe 1. Et retrouvez toutes les émissions précédentes en replay sur le site et l'application Europe 1.
Brigitte a 58 ans, 4 petits-enfants, un emploi passionnant et sa maman Jacqueline qui vit seule dans sa maison. Depuis sa chute en pleine nuit, Jacqueline redoute chaque soir le moment de se coucher. Pour la rassurer, Brigitte fait appel à Petit-Fils. Une auxiliaire de vie veille désormais chaque nuit sur sa maman et Brigitte a retrouvé sa tranquillité d'esprit.
Petit-Fils assure une présence de nuit apaisante pour les aidants et leurs parents. Petit-Fils, l'aide à domicile sur mesure pour les personnes âgées. Petit-Fils.com.
Peugeot.
Ah, tu l'as enfin changé ton utilitaire.
Oui, neuf, bien équipé et sans apport.
Sérieux ? Même pas d'apport ?
Zéro, juste des mensualités claires. Je garde ma trésorerie pour mon activité, pas pour mon véhicule.
Avec Peugeot, démarrez l'année sans compromis. Une flotte moderne, votre trésorerie préservée et maintenant jusqu'à 8 ans de garantie. Jusqu'au 31 janvier, le Peugeot Partner est à partir de 235 euros hors taxes par mois, sans aucun apport.
Crédit bail 60 mois, 50 000 km sans apport pour un partenaire, réservé aux professionnels sous réserve d'acceptation crédit par. Garantie Peugeot Care, conditions sur Peugeot.fr.
À l'écoute des entreprises avec HP.
Collaborer en visioconférence est devenu une norme dans les entreprises. En quoi l'intelligence artificielle change la donne ? Réponse dans un instant avec HP.
Toyota.
Production française qui se vend chaque année comme des petits pains. On dit que je suis fantastique. Je suis...
La baguette ? Le croissant ? Non, la Toyota Yaris Cross Hybrid.
Oui, c'est la voiture la plus produite en France.
Et elle n'a jamais été aussi accessible. Pendant les reprises fantastiques, la Toyota Yaris Cross Hybrid est à partir de 239 € par mois, entretien inclus. Yaris Cross Hybrid dynamique blanc pur à partir de 239 € par mois, LLD 37 mois, 30 000 km, entretien inclus. Premier loyer, 4 390 € réservé aux particuliers dans le réseau participant jusqu'au 2 février sous conditions de reprise. Détails sur toyota.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun.
Leclerc, bonjour.
Vos pommes gala françaises, elles sont vraiment...
délicieuses, pas chères.
Oui, mais surtout, vraiment...
ah, vraiment craquante. Et du 20 au 24 janvier, les pommes gala françaises de verger éco-responsables sont à 1,29€ le kilo. Et il y a 10% de tickets Leclerc en plus sur tous les fruits et légumes à activer sur votre appli Mon Leclerc. Chez Leclerc, le goût du frais, ça se défend tous les jours. Catégorie 1, calibre 170-200 grammes, modalité et magasin participant sur www.e.leclerc.
Si je te dis Dolce Vita.
Fiat.
Si je te dis pot de yaourt.
500.
Si je te dis branché.
Électrique.
Non, si je te dis branché.
Bah, 500.
Mieux, la nouvelle 500 hybride.
Évidemment 500, toujours branché, sans être branché.
Nouvelle Fiat 500 hybride à partir de 159 € par mois et garantie jusqu'à 8 ans. Pour 500 hybride pop LLD 49 mois 40 000 km, apport 2 800 € sous condition de reprise. Prise Ecofiat de 500 € déduite, c'est accord crédit par jusqu'au 31 janvier. Détaillez conditions sur fiat.fr. Fiat. Au quotidien, prenez les transports en commun.
Europe 1, le journal permanent.
19h30, bonsoir Maël Hassani.
Bonsoir Pierre, bonsoir à tous. Avec un certain regret et un peu d'amertume, Sébastien Lecornu affirme qu'il utilisera finalement l'article 49.3 dès demain pour faire adopter sans vote le budget de l'État à l'Assemblée. Le Premier ministre avait renoncé à cet outil constitutionnel à son arrivée à Matignon. Il reconnaît un semi-échec. LFI et le RN annoncent déposer des motions de censure, mais le PS ne va pas les voter, ce qui devrait sauver le gouvernement. Le bilan s'alourdit en Espagne. Au moins 40 personnes sont décédées hier soir dans une collision entre deux trains à grande vitesse en Andalousie. D'autres victimes pourraient être recensées dans les 48 prochaines heures selon le président de la région. Les causes de l'accident restent inconnues. 3 jours de deuil national décrétés dans le pays. Le Danemark et le Groenland proposent la création d'une mission de surveillance de l'OTAN dans le territoire arctique convoité par les États-Unis. Une mesure avancée au plus fort des tensions entre l'Europe et Washington. Donald Trump menace toujours d'imposer des surtaxes douanières aux 8 pays qui ont envoyé des troupes sur l'île la semaine dernière. La France en fait partie. Plusieurs Colombiens lourdement armés interpellés la nuit dernière à Lyon, juste avant de commettre un règlement de compte sur fond de narcotrafic. 4 suspects se trouvaient à bord d'une voiture volée et semblaient sur le point de passer à l'acte. Le 5e homme retrouvé dans un appartement probablement utilisé comme une planque. 72 interventions réalisées par les pompiers depuis hier dans l'Aude, département placé en alerte orange au cru. Une personne hospitalisée en urgence absolue après un accident lié aux intempéries.
Merci Maëlle, à tout à l'heure pour le rappel de l'actualité.
Europe 1 soir.
19h-21h, Pierre de Villeneuve.
Toujours avec Victor Hérault de Valeurs Actuelles, avec Joseph Passescaron. Nous sommes avec Monseigneur Mathieu Rouget, l'évêque de Nanterre, pour parler de ce texte sur la fin de vie qui revient demain au Sénat. Et on disait juste avant la pause publicitaire, Monseigneur, en tout cas, vous disiez que vous espériez des sénateurs qu'ils travaillent suffisamment bien pour qu'en deuxième lecture à l'Assemblée nationale, le débat soit un peu plus apaisé et qu'on réfléchisse à ce sujet qui, on peut le dire, va plonger, si le texte est adopté, la France dans une autre forme de civilisation, dans une autre forme de pensée, dans une autre forme de la vie, la mort. En fait, tout devient plus facile. Je veux pas dire qu'on est comme sur un algorithme ou comme sur un ordinateur ou comme sur une appli téléphone, mais ça y ressemble quand même.
Alors, beaucoup soulignent que voter l'autorisation de la mort provoquée serait une rupture anthropologique grave. Et je le crois aussi, et nous l'avons redit avec tous mes frères évêques à de nombreuses reprises, et encore tout récemment. Après, au jour immédiatement, la vie continuera. Et ce que je pense, il est important de comprendre, c'est que de manière assez insidieuse, les ruptures éthiques génèrent de la rupture sociale, génèrent de la violence. Vous voyez, on vit dans une société extrêmement violente. Et on a l'impression que de plus en plus jeunes, certains de nos concitoyens ont au fond perdu le sens de la valeur de la vie. Rappelez-vous, il y a quelque temps, un jeune qui avait commis le meurtre d'un professeur, je crois, un peu sans savoir pourquoi il le faisait, ce qui était effrayant. Et je crois que peu à peu, on introduit un défaut de prise en compte du respect dû pour chaque vie.
Et donc, ce texte-là n'aggravera que les choses.
La transgression éthique génère, de manière latente, cachée souvent, de la violence sociale. Donc rien ne changera du jour au lendemain. Mais il y a un glissement anthropologique qui, en fait, fragilise notre pacte social.
Joseph.
Le glissement anthropologique, c'est ce que vous expliquez très bien dans la tribune que vous avez donnée au JDD, c'est-à-dire c'est en effet l'injonction sociale qui va peser sur les plus vieux et les plus fragiles. Cette injonction sociale qui va, pour le coup, parce qu'il y a un leurre, le leurre c'est de présenter ça comme relevant de la liberté personnelle. Et l'injonction sociale, en fait, elle est là, c'est-à-dire elle est là, et ce qui me frappe par là, pardon, témoignage, c'est que les médecins que j'ai vus, qui me parlent, qui ne sont pas d'ailleurs forcément chrétiens, mais qui me disent, qui accompagnent des personnes en fin de vie, déjà, la pression, avant même que le texte soit voté, la pression qu'ils ont des familles, il faut le dire, qui disent en substance, non mais attendez, là on peut y aller, pardon, oui, là on peut y aller, le texte va bientôt être voté. Et ça, je pense que, est-ce que les politiques ont conscience de ça ?
Mathieu Roger.
Je ne suis pas sûr. Même si il y en a aussi certains qui sont très courageux, et d'ailleurs de tous les côtés de l'hémicycle, de manière inégale. Mais moi j'étais frappé de voir à l'Assemblée nationale un certain nombre de députés du groupe central, par exemple, qui ont peu à peu évolué dans leur positionnement et ont pu parfois être très vigoureux contre ce texte-là. Et donc, c'est pour ça que je ne désespère jamais d'aucun débat ni de personne, mais c'est vrai que depuis le début, c'est quelque chose que beaucoup d'acteurs de terrain disent. La loi vaudrait d'une manière ou d'une autre un peu injonction à ne pas peser sur la société. Et notre exigence de fraternité, c'est vraiment tellement important, en plus pour la France, avec son histoire, son rapport aux questions sociales, à la prise en compte des plus fragiles, eh bien, ne peut pas accepter cela. Nous sommes une terre dont la vocation est de vivre une fraternité exigeante.
Vous avez parlé des différents ministres de la Santé qui changent souvent, vous en avez compté 8, il y en a un qui ne change pas, c'est le président de la République, il est à son deuxième mandat, et corrigez-moi, mais j'ai l'impression que cette idée de la fin de vie, c'était un marqueur, de son premier quinquennat.
Alors, d'abord, moi, ce qui m'a frappé plusieurs fois, c'est que je pense que François Hollande, par exemple, avait annoncé que un marqueur de son quinquennat serait ce qu'il appelait la Mordigne, et finalement, il n'y est pas allé.
C'est ce qui fait renoncé.
C'est ce qui fait que je reste plein d'espérance, même si la situation est très difficile aujourd'hui. Quant au président de la République, il a rassemblé peu de temps avant de présenter son projet une énième fois des médecins, mais aussi les représentants des cultes, et ce jour-là, c'est moi qui représentais l'Église catholique. Et à sa manière singulière, il nous a dit « Moi, je ne veux pas ouvrir un nouveau droit, ni une nouvelle liberté, mais je veux seulement ouvrir une possibilité. » Alors évidemment, on voit quand même les limites du fameux « en même temps », parce que quelle est la différence entre une possibilité et un droit, une liberté ? Le président de la République a dit qu'il voulait rester dans la voie française ouverte par Jean Leonetti, mais il est clair que là, on en sort vraiment. Et alors, c'est difficile à savoir les intentions qui habitent le cœur de qui que ce soit.
Vous n'avez pas eu la chance de lui parler directement sujet.
Si, je lui ai parlé directement sur le sujet.
Et quelle impression vous avez, sans vouloir bien sûr trahir vos conversations privées avec le président ?
Alors, en l'occurrence, ce n'était pas une conversation privée, puisque nous étions une vingtaine autour de la table, avec le grand rabbin, avec le président de la Fédération protestante, avec un certain nombre de médecins. Eh bien, lui avait sans doute l'impression d'ouvrir une voie d'équilibre, mais ce que moi je pense, et ce que pensaient aussi pas mal de personnes autour de la table, responsables religieux ou médecins également, c'est qu'il y a des domaines dans lesquels on ne peut pas ménager la chèvre et le chou. Intégrer le geste létal à la démarche du soin, c'est quelque chose de contre-nature. Et donc, ça ne peut pas être comme cela qu'on répond aux questions qui se posent et qu'il faut prendre au sérieux d'un meilleur accompagnement, des douleurs réfractaires et de beaucoup de sujets très sensibles. Mais la manière juste de répondre à ces situations limites, cela doit être à l'intérieur du respect inconditionnel de la vie
mais
de chacun.
Mais qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? On lui dit, la fraternité. Vous êtes
plusieurs on a parlé très, très clairement les uns avec les autres, et ce jour-là, ils avaient demandé de lui écrire ensuite nos réflexions.
Mais vous avez senti une inflexion après votre discours?
Je ne dirais pas cela.
Ça, c'est parfaitement clair, Victor Hérault.
Monseigneur, j'aime votre idée de la... comment dire, du glissement anthropologique, de la transgression éthique qui accompagne une certaine violence dans la société, une certaine désensibilisation, peut-être un rapport plus distancié à la mort, plus abstrait. La question que je voudrais vous poser, c'est dans une démocratie comme la nôtre, oublions le Parlement, peut-être l'Assemblée, etc., une démocratie directe, je veux dire, du point de vue de l'opinion du peuple, que peut-on faire vis-à-vis de ce genre de transgression éthique si le peuple devient de plus en plus violent et se fait à l'idée de ces transgressions éthiques? Est-ce qu'on peut l'empêcher de le vouloir et d'amener ce genre de loi?
Alors moi je suis vraiment un partisan de la démocratie représentative, parce que précisément la représentation permet la médiation du débat posé. Et encore une fois, pour moi, j'ai très souvent cité la démarche de la commission Gorz-Leonetti il y a plus de 20 ans, comme exemplaire d'un travail parlementaire et démocratique ajusté, où le fait d'écouter très attentivement la société permet de parvenir à un équilibre vertueux. Alors, voilà, après, la société française est ce qu'elle est, la majorité politique actuelle est ce qu'elle est, et donc il y a des éléments qui sont qui échappent à la perception éthique d'une partie de notre société aujourd'hui. Mais ce qui est important, c'est que le travail politique se fasse de la manière la plus sérieuse possible et qu'on prenne au sérieux. Moi, je suis frappé de voir quand même un certain nombre de personnalités à la fois éminentes et de terrain, croyantes ou non, et très souvent non croyantes, qui nous disent « attention, il y a un véritable danger à franchir un seuil de transgression ». Et je pense que l'honneur des sénateurs cette semaine, et puis des politiques dans les semaines qui suivront, sera de prendre très au sérieux ces avertissements, qui sont la voix de personnes qui sont vraiment aux avant-postes du principe d'humanité.
Joseph Massescaron, une dernière question.
Vous avez parlé des fascicules qui ont été faits par la Fondapol. Dedans, je me souviens bien qu'il était également pointé l'arrière-pensée économique possible derrière cette loi.
Alors, c'est manifeste que accompagner vraiment les personnes en grande fragilité en fin de vie, c'est un coût pour la société.
Oui.
Mais c'est le prix de sa dignité. Alors, ce matin même, sur votre antenne, il y a eu l'éditorial de Vincent Trémollet de Villers qui évoquait ce point. On voit que certains organismes d'assurance, etc., sont assez... engagé favorable à ce texte-là.
Bien sûr.
Et donc, certains vont penser que c'est trop cher pour notre société d'accompagner les personnes en grande fragilité. Mais moi, je dis et je répète que c'est vraiment le prix de la dignité de notre société. Et c'est aussi le prix de cette fraternité sociale qui est la condition de possibilité de la vie en commun.
Et donc, c'est indigne de penser de cette façon, puisque si je retourne votre propos...
Je n'aime pas...
Vous avez parlé de dignité, donc...
Il y a une question de dignité objective. Je ne veux pas jeter l'opprobre sur qui que ce soit. Moi, je veux que chacun puisse progresser sérieusement dans le débat. En revanche, pour notre responsabilité collective, notre dignité, c'est d'accepter de porter les personnes en grande fragilité.
Merci beaucoup, Monseigneur Mathieu Rouget, évêque de Nanterre, d'avoir été en direct sur Europe 1, 19h42. Demain, Thomas Hill, Anissa Haddadi, toute l'équipe de Culture Média vous attendent de 10h à 11h30 sur Europe 1, avec pour invité Lara Fabian en tournée dans toute la France à partir du 9 mars. Branchez-vous sur Europe 1 de 10h à 11h30 sur Culture Média, ou alors bien sûr le replay sur l'appli Europe 1, la radio libre. Restez avec nous, les débats d'Europe 1 ce soir se poursuivent. À tout de suite.
Europe 1 soir, 19h-21h, Pierre de Villeneuve. Dans la vie, il y a beaucoup de choses sur lesquelles on peut débattre. Des sujets qui divisent, qui rassemblent ou font réfléchir. Mais la santé, elle, ne devrait pas faire débat. Pourtant, aujourd'hui, elle reste un enjeu pour beaucoup. Alors chaque jour, le groupe Vive agit pour que vous soyez bien soignés, bien protégés et bien logés. Et parce que nous n'avons pas d'actionnaires à rémunérer, chaque euro est réinvesti pour améliorer la santé de tous.
Parce que la santé est un droit, le groupe Vive, groupe mutualiste de santé et de protection sociale, agit grâce à ses mutuelles et à son réseau d'établissements de soins et de logements pour que personne ne soit laissé de côté. Groupe Vive, pour une santé accessible à tous. Groupe Vive, organisme régi par le code de la mutualité.
Envie de vous offrir la qualité allemande à prix Opel?
Yes, of course.
Une Corse avec Apple CarPlay et Android Auto?
Yes.
À partir de 15 900 euros et jusqu'à 8 ans de garantie spéciale offerte?
Yes.
Rendez-vous en concession pendant les portes ouvertes pour vous offrir Opel Corsa.
Yes.
Offre réservée aux particuliers sur Corsa édition 100 chevaux. 5000 euros déduits non cumulables jusqu'au 31 janvier dans le réseau participant. Garantie spéciale Opel, détails sur opel.fr. IS égale oui. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
Lorsque vous voyagez avec Cathay Pacific, nous ne perdons jamais de vue la qualité de votre expérience. Vous n'aurez donc pas de compromis à faire lorsque vous profitez de nos offres. Bénéficiez de tarifs réduits sur nos destinations Asie et Australie. Les offres Cathay Pacific, allez à l'essentiel.
Distingo Bank, l'épargne en toute simplicité.
À ton tour, et joue ton meilleur coup.
Je l'ai déjà fait.
Ah oui? Avec ta tour ou ton cavalier?
Non, j'ai ouvert un livret Distingo Bank avant de venir. Taux boosté, plus une prime de bienvenue, stabilité, vision, sécurité. Tout ce qu'il faut pour pas se faire mater.
Oh, et moi qui pensais avoir l'avantage.
Tu l'avais? Avant que je joue Distingo. Allez, ressaisis-toi. Va sur distingobank.fr.
Offre soumise à condition, taux promotionnel en vigueur pendant 3 mois dans la limite du plafond. Voir conditions sur distingobank.fr.
Europe 1. Le journal permanent.
8h moins le Carmel, SNU.
La France Insoumise et le Rassemblement National vont déposer des motions de censure en réponse à l'utilisation du 49.3 dès demain par le Premier ministre pour faire adopter le budget de l'État. Sébastien Lecornu confirme ce choix en contradiction avec l'engagement qu'il avait pris lors de son arrivée à Matignon. Il reconnaît un semi-échec, mais le gouvernement devrait être sauvé par la bienveillance du Parti Socialiste. La France n'entend pas donner de suite favorable à l'invitation des États-Unis à siéger dans le nouveau Conseil de paix, une instance internationale créé par Donald Trump et qui devrait permettre au président américain de contourner l'ONU. Le tarif pour un siège permanent est fixé à 1 milliard de dollars. Le Canada, la Russie ou encore l'Argentine affirment également avoir reçu des propositions. Au moins 40 morts et une centaine de blessés, c'est le dernier bilan de la catastrophe ferroviaire survenue hier soir en Andalousie. Plusieurs wagons d'un train à grande vitesse ont déraillé pour une raison inconnue avant d'être percutés par un autre train circulant en sens inverse. Le Premier ministre espagnol promet une transparence absolue durant l'enquête. 3 jours de deuil national décrété en Espagne. Et puis une icône de la haute couture vient de s'éteindre. Le styliste Valentino est mort aujourd'hui à l'âge de 93 ans. Il restera dans l'histoire notamment comme le premier couturier italien à ouvrir une boutique à New York. C'était en 1970.
Merci Maël. Les débats d'Europe 1 Soir se poursuivent. On parle bien sûr du 49.3 annoncé par Sébastien Lecornu dans un petit instant sur Europe 1.
19h-21h
Europe 1 Soir.
Mesdames et messieurs, bienvenue à bord du nouveau SUV Citroën C3 Aircross et ses 7 places. Installez-vous confortablement dans votre siège Advance Confort et veuillez attacher votre ceinture. Nous vous souhaitons un agréable voyage.
En janvier, évadez-vous avec le nouveau SUV Citroën C3 Aircross à partir de 199 euros par mois seulement. Citroën.
LLD 49 mois, 40 000 km, premier loyer de 2500 euros, offre à particulier jusqu'au 31 janvier sous réserve d'acceptation crédit par détail sur citroën.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun.
Aesio Mutuel présente.
Dis donc, tout en trop, c'est moi ou t'as pris du muscle?
Ah non, j'ai croisé Météos ce matin et vu ses prévisions, j'ai mis 8 toges.
Ah oui, mais enfin, Météos, elle débute, elle est pas toujours fiable. Là, t'as chaud, non?
Parfois, il vaut mieux être bien couvert que trop couvert. Aesio Santé Essentielle, c'est la couverture santé simple et claire, recentrée sur ce qui vous sert vraiment et jusqu'à 20% moins cher que la concurrence. Aesio Mutuel, c'est ça la mutuelle d'aujourd'hui. Étude comparative réalisée par Minalea en 2025 sur des offres non responsables à prestations équivalentes. Détails et informations sur aesio.fr.
Choisissez votre destination et nous irons ensemble par la mer. N'attendez plus et embarquez avec CFC Croisières pour des vacances d'exception tout en profitant du calme et du confort d'un navire à taille humaine. Terre en vue avec CFC Croisières. En ce moment, cédez à l'offre l'appel du large, réservé pour vous et le deuxième passager est à moins 50%. Offre soumise à condition. Plus d'informations au 0800 1 03 03 03, service et appel gratuit et sur cfc-croisière.fr.
Europe 1 Soir,
19h-21h, Pierre de Villeneuve.
Jusqu'à 20h avec Joseph Massescaron et Victor Hérault et Sébastien Lecornu qui a donc annoncé engager la responsabilité de son gouvernement sur le budget. On écoute le Premier ministre.
Nous avons décidé, je dois le dire, avec une certaine forme de regret et d'un peu d'amertume, mais d'engager la responsabilité du gouvernement, ce que je ferai demain sur la partie recette du projet de loi de finances. Alors je le fais avec un regret déjà parce que j'ai conscience que je suis obligé de revenir sur ma parole, mais en même temps pour tenir parole, il faudrait que je m'entête. Et pour s'entêter, on finirait par dire que je suis têtu et je ne veux surtout pas, vous l'avez bien compris, avoir l'ego mal placé et être source de désordre. C'est pas parce qu'on engage la responsabilité du gouvernement qu'on abandonne l'idée du compromis, du travail sur le fond.
Tout à l'heure, je disais en titre, Victor Hérault, fin du suspense ou du secret de Polichinelle.
Oui. Oui, c'était bon. Ça où les ordonnances, on se doutait quand même que ça allait être... Moi, je pense que dès le départ, dès qu'il a promis, c'est facile de le dire maintenant, mais j'ai eu l'occasion de le dire avant qu'il revienne sur sa promesse, il ne pouvait pas faire autre chose qu'utiliser le 49-3. C'était idiot, d'ailleurs, cette promesse.
Et
en
pourquoi
réalité.
Plus le 49-3 que les ordonnances?
Mais, non, parce que les ordonnances, c'est... Enfin, je trouve, j'étais un peu mal à l'aise avec cette idée-là. Je pense que le 49-3 est plus... démocratique, les ordonnances restent quand même dans un texte
parce
constitutionnel.
Parce que vous gardez le texte amendé.
Il y a le moyen de pouvoir les ordonnances, si vous censurez le gouvernement après, le texte est quand même là.
Alors que oui, mais c'est l'ancien texte, 3, c'est le texte
oui,
initial.
Mais le 49-3, en revanche, si vous censurez, il n'y a plus de texte et il n'y a plus de gouvernement. Et là, on repart à zéro.
Donc bon. Là, il prend le risque quand même de se faire
tomber,
censurer avec le texte amendé que lui a jugé dernièrement comme le meilleur, même si on vient de voir que Madame de Montchalin enlève des... l'exemption permettant d'échapper à l'impôt en rangeant des biens personnels parmi les actifs d'une entreprise familiale. Voilà, encore truc en plus.
Il donne tout aux socialistes. Depuis le départ, sa méthode n'est pas la bonne. Il n'y en avait pas de bonne, peut-être, mais le compromis sans cesse, alors qu'on parle d'un débat qui veut plusieurs centaines d'années entre politique de l'offre, politique de la demande, etc., qui sont incompatibles. On ne peut pas faire de compromis entre ces deux visions-là. C'est l'un ou l'autre, hein, ce sont des antagonismes. Bon, au bout d'un moment, vous êtes obligé de faire un 49-3. Ce qui est ironique, c'est qu'il avait acheté le Parti Socialiste en disant « je n'utiliserai pas le 49-3 » et il finit par acheter le Parti Socialiste avec des mesures économiques pour ensuite dire « j'utilise le 49-3 » et le Parti Socialiste ne me censure pas. En revanche, que vont faire les Républicains? Franchement, est-ce qu'ils vont avaler cette pilule-là? Là, je ne sais plus ce qui reste des Républicains s'ils ne censurent pas.
Joseph Massescaron.
C'est bien été résumé par Victor, c'est-à-dire que en fait, l'annonce de ne pas utiliser le 49-3 avait été saluée notamment par les socialistes qui avaient négocié cet abandon. Et aujourd'hui, pratiquement, les socialistes se félicitent que, là pour le coup, on en revienne au 49-3, puisqu'il y a un certain nombre de décisions qui sont arrivées à faire passer. Donc, il n'empêche que ce budget est un budget quand même qui est plus proche des desiderata socialistes qu'il ne l'est de desiderata libéraux.
Ça, c'est acquis, on le sait.
Moi, ce qui me frappe, c'est qu'aujourd'hui, je ne sais pas si tous ces gens-là, je me demande, pardon de dire ces gens-là, mais je ne voudrais pas être irrespectueux, mais je me demande s'ils n'habitent pas sur la planète Zorg. Parce que.
La planète quoi ?
La planète Zorg.
La planète Zorg.
C'est une planète extra, voilà.
C'est un truc de science-fiction.
Voilà. Pourquoi ? Parce que, je veux dire, sur une autre planète, très 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 loin de notre système solaire. Pourquoi ? Parce que, très franchement, à moins d'être dans une bulle, de ne parler à personne, alors ils parlent quand même à leurs électeurs, j'imagine, à des acteurs économiques, qu'est-ce que tout le monde nous dit ? Tout le monde, les personnes, moi j'entends ça en permanence, disent « mon fils part à l'étranger, l'entreprise dans laquelle je suis part à l'étranger ». Alors c'est au Mexique, c'est en Italie, c'est au Vietnam, c'est au Brésil, mais vous entendez ça, je vous assure.
Vous entendez ça en permanence. Comment
ne pas voir ce paradoxe absolu que eux, c'est-à-dire les parlementaires, pour rester en place, font partir tous les autres. C'est ça, moi, ce qui me frappe.
C'est très bon, ça, c'est vrai.
C'est ça qui me frappe.
On est à l'antithèse du faire-nation. C'est-à-dire
l'antithèse totale.
Voilà, on savait qu'il y avait du carriérisme en politique. Enfin, là, quand même, ça dépasse l'entendement. Vous parliez des socialistes. Écoutons Jérôme Guedj qui annonce que le Parti Socialiste, pour l'instant, ne censurera pas.
Les indications fournies par le Premier ministre en fin de semaine dernière, si elles se retrouvent dans le texte soumis à 49-3, c'est-à-dire de la justice sociale avec des mesures de soutien au pouvoir d'achat, des mesures pour l'école, le renoncement aux mesures d'économie les plus injustes, les mesures en faveur des jeunes et notamment le repas à 1 euro, les financements pour les missions locales. Si on a la justice sociale d'un côté, la justice fiscale, c'est-à-dire des mesures qui préserve le pouvoir d'achat des Français, c'est-à-dire pas d'augmentation d'impôts pour les classes moyennes, les classes populaires, et uniquement une concentration sur les grandes entreprises, éventuellement les plus hauts patrimoines. Si ça s'y retrouve, ça correspond à la position de compromis qu'on a mis sur la table depuis le début. Et donc, en responsabilité, on ne censurera pas.
Voilà, concentrons sur les hauts patrimoines, sur les grandes entreprises, qui, effectivement, c'est la fuite des capitaux, ça s'est déjà vu par les passés. Et puis, ça s'est vu en Angleterre, ça s'est vu dans un pays scandinave qui m'échappe à l'instant. Mais je crois que c'est en Norvège, voilà, c'est ça, où il y a des gens qui sont partis aussi.
Mais j'adore la façon dont Jérôme Guedj fait mine.
Jérôme Guedj, qui sera demain au micro de Sonia Mabrouk, hein, à 8h19. On aimerait bien avoir la suite de le développement, Sonia fera ça très bien pour avoir la suite de ça.
Non, mais ce que j'aime, c'est qu'ils ils emploient tous le terme, tous, hein, donc Banque Centrale et PS, LR compris. C'est une expression que j'aborde maintenant, qui est l'expression en responsabilité. Oui. Alors, nous devons tous entendre que c'est en irresponsabilité.
Oui. Voilà. Non, oui. Et il y a encore pire. Je le disais, compromis, en responsabilité, et la stabilité, en l'état des choses, la stabilité, c'est stagner dans l'enfer socialiste. Hein. Je veux dire, ça n'est pas autre chose. Moi, j'aimerais qu'il y ait de l'instabilité, c'est-à-dire qu'on se sorte de ce foutoir. C'est-à-dire, là, il faut qu'on arrête de persister dans la trajectoire qui est la même qu'on dénonce tous les ans. On dit on est de plus en plus proche du mur et on aggrave, on accélère le processus. Et l'air faussement circonspect de Jérôme Guedj, qui n'a pas envie d'éclater de joie, alors qu'il doit, ça doit bouillir à l'intérieur. Il est fou de joie, Jérôme Guedj. Ils ont tout eu. Et ils continuent de nous dire, conditions de peut-être, oui, peut-être qu'on ne s'en sera pas. Tout ce qu'il a évoqué sera dans le texte demain. Tout sera fait pour contenter le Parti Socialiste. Les Républicains, encore une fois, se coucheront complètement.
Mais est-ce qu'il y aura une censure?
Non, il n'y aura pas de censure. Parce que si vous faites les calculs, si plus d'un tiers du Parti Socialiste... Ouais. Il faudrait que plus d'un tiers du Parti Socialiste censure pour que le gouvernement tombe. Ce qu'ils ne feront pas. Ils n'ont pas intérêt. Les LR, c'est 49 députés. Si par miracle, ils ont tous, et je dis bien tous, le courage de le faire, ça pourrait passer. On peut encore rêver.
Bon, ben continuons à rêver, et sur l'exil fiscal, ben voilà, souvenons-nous quand même que certains Britanniques dans les années 70 fuyaient la Grande-Bretagne socialiste pour aller où ? En France.
Et ben voilà. Et l'URSS avait trouvé la solution à tout ça.
Roger Moore, les Stones, pour ne citer que.
Enfin, n'oublions pas quand même que la sécurité sociale est passée à la trappe.
Ben oui, vous avez raison de le souligner.
Parce que là, on l'oublie. Hein.
56,
plus personne n'en parle.
Le Cornu a parlé quand même du budget de la Sécu. 19h56, dans 4 minutes, le journal de Maël Hassani. Et juste après, Alexandre Devecchio, mon confrère du Figaro, pour son dernier livre. À tout de suite sur Europe 1.
Bonjour, c'est Olivier Delagarde. La liberté d'expression, vous l'entendez sur Europe 1. Parce que la vérité des uns n'est pas forcément celle des autres.
Olivier Delagarde, la revue de presse, du lundi au jeudi à 7h45 et 8h45. Europe
1. La radio libre, à l'écoute des entreprises avec HP. La visioconférence fait désormais partie du quotidien des entreprises et pour des échanges plus fluides, HP a lancé une gamme de copilotes plus PC qui sont des PC IA nouvelle génération. Bonjour Julie Conan.
Bonjour.
Vous êtes chef de produit notebook chez HP, alors comment ces PC intelligents améliorent-ils l'expérience utilisateur ?
Eh bien, par exemple, le HP EliteBook X G1i intègre Polycamera Pro. C'est une technologie HP qui permet de personnaliser vos appels vidéo sur n'importe quelle plateforme de visioconférence.
D'accord.
Vous pouvez par exemple afficher votre nom, votre fonction à l'écran lors de vos réunions, comme une carte de visite vidéo.
Et tout ça repose sur l'intelligence artificielle ?
Oui, c'est le NPU, c'est une puce dédiée à l'IA qui gère ses effets en local. Okay. C'est fluide, c'est sans impact sur la batterie du PC qui a plus de 10 heures d'autonomie en navigation web.
Sûrement très utile pour les entreprises hybrides ?
Oui, et avec la fin du support de Windows 10, passez au copilote plus PC, c'est vraiment le moment idéal.
Et pour plus d'infos ?
Rendez-vous sur hp.com/AIPC.
Merci Julie.
Merci.
Toyota. Production française qui se vend chaque année comme des petits pains. On dit que je suis fantastique. Je suis...
La baguette ? Le croissant ? Non, la Toyota Yaris Cross Hybride.
Oui, c'est la voiture la plus produite en France.
Et elle n'a jamais été aussi accessible. Pendant les reprises fantastiques, la Toyota Yaris Cross Hybride est à partir de 239 € par mois, entretien inclus. Yaris Cross Hybride dynamique blanc pur à partir de 239 € par mois, LLD 37 mois, 30 000 km, entretien inclus. Premier loyer, 4 390 € réservé aux particuliers dans le réseau participant jusqu'au 2 février sous conditions de reprise. Détails sur toyota.fr. Pensez à covoiturer ?
Je suis ta beauté intérieure.
Que souhaites-tu ?
Je voudrais une bibliothèque jusqu'au plafond pour ranger mes beaux livres et tous mes objets déco.
Oui.
Sur mesure, multicolore, avec mon bureau intégré et puis aussi des LED. C'est possible ?
Bien sûr que c'est possible. Jusqu'au 14 février et exclusivement chez Arkéa.
Profitez d'une remise de moins 20% sur tous vos projets d'aménagement et laissez enfin s'exprimer votre beauté intérieure. Moins 20% chez Arkéa, c'est du sur mesure pour vous. Voir liste des magasins participants sur arkéa.fr.
Merci à Catherine. Merci à Nicole, André, Mireille ou encore Patrick. Merci à toutes ces personnes qui, grâce à leur legs en faveur du Secours catholique, nous ont donné les moyens d'agir chaque jour pour les plus démunis. Sur la terre comme au ciel, continuez vous aussi le combat pour la fraternité en faisant à votre tour un legs au Secours catholique. Demandez votre brochure legs auprès de Pascal en appelant le 0805 212 213 ou sur legs.secours-catholique.org.
Cerise nous dit pourquoi on peut compter sur Groupama.
Rien de grave, Victor.
Non, Cerise, c'est juste un accrochage. Mais je dois faire réparer ma voiture rapidement et en ce moment, j'ai beaucoup de dépenses.
Rassurez-vous, Groupama est là. Si vous la faites réparer dans un de nos garages partenaires, vous n'aurez pas de frais à avancer. Nous les prendrons directement en charge.
Ah, merci, Cerise. Je vais appeler mon conseiller.
Et il vous trouvera le garage partenaire le plus proche de chez vous.
Groupama.
Groupama, toujours là pour moi.
Plus d'infos sur groupama.fr pour les